Je vais vous dire, je suis pas vraiment surpris du résultat de cette étude, donc, qui a été présentée au congrès de l'ACFAS sur l'impact du parascolaire sur le décrochage scolaire. Tu sais, on le sait dans le fond, là. On le sait en particulier pour les garçons que le sport, c'est une très bonne façon de les rattacher à l'école. Mais on pourrait parler du théâtre, enfin, toutes les activités parascolaires. Sauf que le chiffre est vraiment impressionnant. Cette étude-là démontre donc que les élèves là, qui étaient à risque de décrocher de l'école sont... Il y avait 70 % moins de chances d'abandonner l'école s'ils étaient impliqués de façon continue là, dans une activité parascolaire. Écoute, tu dis là, on cherche des solutions pour augmenter notre taux de diplomation. Je ne dis pas que c'est la seule solution, mais là, tu dis, il y en a une solution. Il faut investir beaucoup là-dedans, dans le parascolaire. Pour en discuter, on va aller rejoindre Véronique Dupéré, qui est professeure à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal et qui a dirigé l'étude en question. Bonjour, Mme Dupéré.
Bonjour, M. Drainville.
Je suis vraiment impressionnée par le chiffre. Est-ce que vous l'avez été vous aussi?
Oui, en effet, dans cette étude-là, on s'intéressait aux facteurs qui pouvaient soutenir la persévérance scolaire. Mmh. On avait considéré différentes formes de soutien qui pouvaient aider les élèves, dont les activités parascolaires. Puis quand on est arrivé à la fin du projet, bien, on s'est rendu compte, en fait, que c'était ce facteur-là qui était le plus fortement associé à la persévérance scolaire. Fait que oui, nous aussi, dans une certaine mesure, on a été surpris de l'ampleur là, du lien qu'on a pu observer.
Quand vous dites que vous avez mesuré, en fait, l'impact du parascolaire sur les élèves à risque, hein? Les oui. Adolescents à risque, c'est quoi un adolescent à risque?
Je peux peut-être vous parler un peu de comment on a procédé là, dans le cadre du projet. Dans les écoles qui participaient, ce qu'on faisait, c'est qu'au début de l'année, on allait rencontrer tous les élèves qui avaient au moins 14 ans, puis les élèves remplissaient un questionnaire de dépistage qui est très utilisé dans les écoles du Québec, qui nous permet, au fond, d'identifier les élèves qui ont le plus de chances de décrocher. Donc, on va mesurer avec ça, par exemple, les aspirations scolaires des élèves, est-ce qu'ils ont l'intention de décrocher ou non, quelles sont leurs notes, est-ce qu'ils ont déjà redoublé, des facteurs comme ceux-là. Puis à partir de ça, c'est ça, on a pu identifier des élèves qui avaient un risque, qui étaient considérés comme étant plus à risque de décrocher. Puis là, ce qu'on a fait dans le cadre du projet, c'est qu'on a interviewé des élèves qui décrochaient dans les faits, mais aussi des élèves qui avaient le même type de profil que les élèves qui décrochaient, mais qui ne décrochaient pas. Mm-hmm. Puis, donc, c'était des élèves résilients, finalement, là, qui étaient persévérants malgré la présence d'un profil de risque. Puis là, on leur a posé toutes sortes de questions sur ce qui se passait d'important dans leur vie, qu'est-ce qu'ils avaient fait au cours de la dernière année. Et là, c'est là qu'on s'est rendu compte, en fait, que parmi les élèves résilients, bien, il y en avait beaucoup qui participaient à des activités parascolaires, beaucoup plus que chez les élèves décrocheurs. Donc, c'est à partir de là qu'on a conclu que la participation des activités parascolaires pouvait être un facteur de soutien important à la persévérance.
On sait qu'on a un problème avec les garçons en particulier, hein, avec le décrochage. Est-ce qu'on peut dire que le parascolaire a un impact tout aussi important chez les filles que chez les garçons? Ou est-ce que, par exemple, est-ce que le sport est davantage accrocheur pour les garçons à l'école? Est-ce que vous avez été capable un petit peu de ventiler ça?
Oui, là, ici, je veux souligner que c'est Éliane Toin qui a réalisé le projet dans le cadre de son mémoire de maîtrise. Mm-hmm. Je sais qu'Éliane avait analysé là, différents facteurs qui pourraient peut-être influencer l'impact des activités. Puis, en fait, les activités semblent avoir un impact aussi important pour les filles que pour les garçons. Mm-hmm. Mais nous, ce qu'on pense, c'est que c'est important d'avoir un éventail d'activités qui va plaire à des élèves qui ont des profils, qui ont des goûts, qui ont des intérêts différents. Donc, si on veut aller raccrocher tout le monde. Si on offre juste des sports, ben on pourrait passer à côté d'un élève pour qui c'est plus la musique, par exemple, qui serait d'intérêt. Donc, pour nous, on voyait ça comme quelque chose qui montrait que c'est important d'avoir une offre diversifiée.
Je vais vous demander dans un instant au 790-9850 si vous poussez vos enfants à s'en aller vers le parascolaire. Est-ce que vous en avez vous-même fait peut-être du sport ou peut-être que vous vous êtes impliqué, je sais pas moi, dans le bal de fin de session ou dans le journal étudiant ou dans un club d'Amnesty International ou un club de je sais pas, d'art oratoire. Peu importe, on prendra quelques appels, 790-9850 ou encore par texto 98985, Drainville à commercial 985FM.ca. Ce que j'ai vu aussi dans le papier d'Isabelle Porter du Devoir, donc qui rapporte cette étude de Madame Mme Thouin, c'est que c'est assez dommage de le constater, mais quand il y a eu des compressions dans le secteur de l'éducation pour arriver à l'équilibre budgétaire, très souvent, c'est les activités parascolaires qui sont coupées les premières. Et quand on voit des résultats comme ça, on se dit, ben c'est certainement pas là qu'il faudrait couper. Enfin, quand on parle d'éducation, on se dit qu'on devrait couper nulle part. Mais en tout cas, chose certaine, quand on regarde le résultat phénoménal que ça produit au niveau du décrochage, au niveau de la persévérance scolaire, il faudrait surtout pas couper là-dedans. Il faudrait même investir là-dedans.
Ben, ce que j'aurais envie de dire ici, je vais faire référence au projet d'une autre étudiante qui s'appelle Julie McCabe. Elle s'est intéressée aux écoles qui réussissaient particulièrement bien à soutenir la persévérance avec les activités parascolaires. Puis ce que Julie a trouvé dans son étude, c'est que ce que je veux dire finalement, c'est que ça dépend de la manière dont c'est fait aussi. Les écoles où ça marchait vraiment très bien, c'était les écoles qui avaient vraiment un souci d'intégrer les élèves en difficulté dans les activités parascolaires. Donc où, par exemple, on allait chercher les élèves de l'adaptation scolaire pour qu'ils participent, ou les élèves qui étaient en difficulté sur le plan académique étaient vraiment bienvenus, puis on faisait beaucoup d'efforts pour aller les chercher. C'est vraiment dans ce contexte-là que les activités parascolaires fonctionnaient le mieux.
Ah, c'est très intéressant. Véronique Dupéré, professeure à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Merci beaucoup, Mme Dupéré.
Merci à vous, c'est un plaisir.
On va aller rejoindre maintenant Patrick qui nous appelle au 790-9850. Bonjour, Patrick.
Salut, M. Rivelle.
On vous écoute.
Ben, écoute, moi, en secondaire 1, j'ai redoublé et puis je jouais au hockey et je jouais au basketball avec l'école. Puis vu que j'ai doublé, ma mère était très fâchée. Elle m'a tout enlevé mes sports. Fait que l'année suivante, oui, j'ai réussi mon secondaire 1, mais j'étais tellement malheureux qu'en secondaire 2, j'ai abandonné l'école à 15 ans.
Oui, c'est ça.
Plus rien qui me tenait. J'avais plus rien. L'école, tu trouves ça plate, t'as de la difficulté, t'as plus rien qui te plaît. J'ai décroché, j'étais sur le marché du travail, puis ça a été difficile les premières années, là, mais heureusement, je m'en suis bien sorti, je suis retourné à l'école plus tard. Là.
C'est intéressant, Patrick, votre appel, parce qu'effectivement, ce qu'on entend dire parfois, c'est que les écoles rendent conditionnel l'accès au programme parascolaire à la bonne atteinte de notes, hein, d'un minimum, mettons, de résultats scolaires, puis on se rend compte que c'est peut-être pas la bonne approche, parce que si tu décroches l'élève de son parascolaire, si tu l'enlèves parce qu'il n'y a pas des bonnes notes, il risque d'en avoir des moins bonnes encore et puis il risque de faire comme vous et puis éventuellement de lâcher l'école. On s'en va rejoindre François. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Moi, je voulais juste signaler, si vous regardez le décrochage par rapport au nombre de cours d'éducation physique qu'on a aboli il y a quelques années, il y a comme
une corrélation.
Il y a comme un lien entre... Ouais, une corrélation. Comme un lien entre les deux. Depuis qu'on a coupé les cours d'éducation physique, les jeunes, il y a moins d'intérêt à l'école, il y a moins d'éducation, etc., etc. Et si vous regardez les écoles qui offrent des programmes autant robotiques que sportifs intensifs, souvent, il y a des beaucoup meilleurs résultats que certaines autres écoles.
C'est très intéressant, la thèse que vous soumettez. C'est très intéressant. Je me demande, à sa face même, je dirais intuitivement, ça se peut que ça y ait contribué, en particulier au décrochage des enfants, le fait qu'on investisse moins dans le programme scolaire, là, qu'on mette moins de temps pour ce qu'on appelait le cours d'éducation physique. Là. C'est très intéressant comme thèse, François.
Il y a même des écoles qui ont fait des tests à Montréal il y a quelques années où est-ce que les élèves commençaient en éducation physique ou en autre discipline, en sport. Et puis tout de suite après, ils avaient des examens. Il s'était prouvé que ces enfants-là avaient des bien meilleurs résultats scolaires que toutes les autres écoles. Et ils ont abandonné ce projet-là pour aucune raison. Je ne sais pas c'est quoi la raison, mais ça a été complètement abandonné. C'est très dommage.
Absolument. Merci beaucoup pour l'appel. On s'en va rejoindre Rosalie. Bonjour, Rosalie.
Bonjour, M. Drinville. Voilà, moi, j'ai 85 ans maintenant. Bon. Là, je suis à ma retraite et récemment, j'ai rencontré un professeur qui enseignait en quatrième année à ce moment-là. Elle m'a dit, je ne sais pas ce que tu faisais aux enfants, mais ceux qui venaient de ta classe, ils réussissaient bien mieux que les autres. Savez-vous qu'est-ce que je faisais? Je me servais des instruments de l'orchestre rythmique enfantin qu'on a à la maternelle. Et les enfants aimaient ça. Les enfants qui étaient bruyants puis qui avaient des difficultés scolaires, ils venaient tout de suite mieux dans toutes les autres activités quand on faisait beaucoup de musique.
Vous avez été enseignante pendant combien d'années, Rosalie?
J'ai enseigné 25 ans à la maternelle.
Ah, ben,
voilà.
Ben, voilà. C'est, merci pour l'appel. Et vous portez le nom de ma fille, Rosalie. Alors, vous me rappellerez. Ça me fait du bien. On va aller rejoindre Régis maintenant. Bonjour, Régis.
Oui, allô?
On vous écoute.
Oui, pardon. Écoutez, moi, j'étais professeur longtemps, mais je voulais dire à Mme Rosalie, merci pour ceux qui sont passés entre vos mains. Uh-huh. C'est quelque chose, il y a eu des professeurs comme ça tout le long de nos vies qu'on aurait dû remercier puis qu'on n'a pas fait. Écoutez, rapidement, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Souvent, ça reste encore ça. Mais il faut aller voir ce que le docteur Julien fait à Montréal, magnifique. De magnifiques choses au niveau du garage où il permet aux enfants après l'école d'avoir une guitare dans les mains et tout ça par don. Et il faut regarder aussi ce que le ministre de l'Éducation en France, M. Blanquet, vient de faire. Il a ordonné que toutes les écoles aient une chorale. Ça coûte pas cher.
Ah, c'est vrai,
le
ça.
Développement...
Oui, oui, c'est vrai, vous avez absolument raison. Ils ont décidé en France de miser beaucoup sur la musique. Un peu, d'ailleurs, ça nous évoque le film, comment ça s'appelait, oui. Les choristes. Oui.
Les choristes, oui. Et c'est plus ou moins coûteux, là. J'admets qu'il faut avoir de l'implication et tout ça, et du suivi de la part des parents aussi. Mais c'est, toutes les études le montrent, ça permet de développer les facultés intellectuelles, la lecture, l'implication, le développement individuel et social aussi au niveau du clan et de tout ça. Ça, écoutez, ça coûte peut-être un peu, mais ça enlève tellement de troubles coûteux par la suite qui vont coûter à la société, qui vont coûter à un paquet d'endroits. Et mon Dieu, si nos enfants sont plus heureux parce qu'ils font un peu de sport, un peu plus de sport, puis un peu plus de musique. Pourquoi pas?
Bingo, Régis, vous avez absolument raison. Merci pour l'appel. Petit texto juste avant d'aller à la pause. Bonjour, M. Drainville. Ma fille de 15 ans fait du parascolaire en danse. Ça l'aide énormément avec son TDAH. Sans le parascolaire, on pourrait dire adieu à ses études, nous écrit Patrick. Voilà, on s'arrête. Au retour, ben une revenante. Mes chers amis, une revenante, elle a eu un gros accident, là. Un gros accident de ski, c'est la députée Manon Massé. Et elle va nous parler, je pense qu'à ma connaissance, c'est sa première entrevue depuis son accident, tout de suite après la pause.